Parents Live, la vie de famille en direct.
Vous avez envie de partager votre expérience de parents, grands-parents, beaux-parents, enfants ou ados sur un sujet qui vous tient à cœur? Racontez-vous.
Sur Parents Live, on parle de la vie de famille, la vraie, celle qui tâche, qui fait du bruit, qui empêche de dormir ou qui claque les portes.
Rejoignez le direct Parents Live tous les deuxièmes mercredis du mois sur News FM.
Retrouvez les podcasts et l'ensemble des vidéos créées dans le cadre du projet Parents Live sur parentslive.fr. Eh bien, ça y est, on se retrouve pour cette rentrée, enfin. Eh oui, conducteur, on est là, on est ensemble, on est avec Flo, toujours pour l'émission Parents Live. Bonjour Flo.
Salut Greg, je sais pas si c'est la rentrée enfin, moi je reviens rester en vacances.
Ça c'est ce que tout le monde dit, c'est vrai, bah moi aussi, mais bon, on va quand même pas remuer le couteau, hein, comme on dit. Parents Live numéro 17, c'est quoi ton genre de parent? Ah là 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 là, le direct Parents Live fête sa troisième rentrée. Flo, ça va faire 2 ans qu'on se retrouve tous les deuxièmes mercredis du mois pour échanger avec des parents, des pros, des assos autour de la vie de famille. Et puis on kiffe ça, hein. Bon, faut se le dire quand même, on kiffe grave.
Oui, alors cette année il y a des petits changements. On fait le pari qu'on va pouvoir vous voir plus souvent en vrai. Alors on a fait le choix d'espacer les émissions tous les 2 mois, histoire de faire moins, mais mieux. Et surtout de pouvoir vous proposer à nouveau des ateliers vidéo, photos, podcasts près de chez vous. On va pouvoir se retrouver régulièrement, notamment au Café des Enfants, pour différentes animations. Et puis grâce à l'expo sur la Place des Pères, on va faire le tour de l'agglo, un détour par les abrets en Dauphiné, et sûrement descendre dans le sud, à Vitrolles, et pousser peut-être jusqu'à l'Aveyron. Bref, on est chaud, on est motivé, et surtout le sujet de cette 17e émission nous ravit. C'est l'éducation égalitaire.
L'éducation égalitaire, c'est quoi encore ce truc, Flo? Une nouvelle injonction culpabilisante? Un nouveau coaching pour être un bon parent? Une énième tendance pour monter sur le podium de la famille parfaite? Qu'en sais-je encore?
On va perdre les auditeurs. Restez avec nous, ça va bien se passer. L'éducation égalitaire, c'est d'abord se poser des questions. Bon, ok, on est en plein boom de la rentrée, la charge mentale est allée à son max, mais on va quand même essayer. L'idée, c'est de se dire comment j'interagis avec les enfants de genres différents. Qu'est-ce que je leur propose comme environnement de jeu, comme lecture? Quelle prise de risque j'autorise? Comment je réagis à leurs émotions? Et puis voir si consciemment ou non, on fait des différences. Et puis, à quels endroits? C'est pas forcément une éducation neutre ou non genrée, mais plutôt une façon de repérer les enjeux qu'il y a derrière le sexisme ordinaire. Bref. On va dire que l'éducation égalitaire, c'est se soucier de ses pratiques et attitudes éducatives pour accompagner les enfants vers la liberté, l'égalité, la tolérance, une ouverture à la diversité aussi, dans une société où les stéréotypes de genre et les inégalités sont encore très présents.
Yes, et on reçoit pour en parler de nombreux invités. Alors, tous nos invités ne sont pas encore arrivés, hein, Flo,
et non.
Malheureusement. Donc, on devait avoir peut-être Rémi qui est en route, voilà, qui est venu, qui doit venir avec ses 2 enfants, Léo, 11 ans, et Lily, 6 ans. Voilà, donc il devrait être en train d'arriver. On a Delphine aussi, qui est maman d'un garçon de 6 ans et de 2 filles de 3 ans et demi et 1 an et demi. C'est bien ça?
Salut Delphine.
Voilà, bonjour. Il me semblait. Alors, petite précision sur ton organisation familiale, Delphine, peut-être?
Ils ont un papa qui est en congé parental, et voilà, c'est tout. Et moi, je bosse.
Ok, voilà, c'est leur gars, c'est comme ça. Nous avons Corinne Lemarié, élue métropolitaine à l'égalité femmes-hommes. Bonjour.
Bonjour, et merci de l'invitation de News FM.
Mais merci de l'avoir accepté, surtout. Et puis, nous avons Noémie Hoth, fondatrice de Grandir Ego, l'école des adultes pour des enfants libres, qui propose des formations et des ateliers aux professionnels et aux parents. Bonjour.
Bonjour. Noémie,
bienvenue.
Et puis, comme vous le savez, j'aime toujours faire des petites interviews bonus. Donc, on va aussi entendre des extraits de l'échange que j'ai pu avoir avec Marine Viennet et Erika Leclerc-Massot, qui sont 2 comédiennes. Et elles ont écrit et interprètent un spectacle qui s'appelle La beauté des sexes. C'est un docu-spectacle qu'elles veulent drôle, doux, audacieux sur le féminin, le masculin, les stéréotypes de genre et le sexisme ordinaire. Et qui s'interroge comment on éduque à l'équité des sexes. Autant dire qu'on était en plein dans le thème. Et bien sûr, l'intégrale de l'interview sera en bonus.
Bien sûr, sur le site Parents Live.
Sur le site Parents Live, sur Instagram et puis sur toutes les plateformes d'écoute en ligne.
Trop bien, vous êtes prévenus. Eh bien, on va commencer. On n'a pas, d'enfants avec nous tout de suite, mais on rebondit, on se laisse pas abattre. On va commencer par présenter la Maison de l'égalité femmes-hommes, donc avec Corinne Lemarié, élue métropolitaine justement. Est-ce que bonjour, présentez-nous cette Maison de l'égalité femmes-hommes, s'il vous plaît.
Avec plaisir. Donc la Maison de l'égalité, c'est un outil métropolitain, comme on dit couramment dans notre jargon, c'est-à-dire que c'est un lieu qui a été voulu par les élus de la métropole, et donc les élus des 49 communes, un petit peu moins de communes à l'époque, mais donc qui est devenu métropolitain en 2015, et c'est un lieu qui se situe à Échirolles, au sein duquel il y a des agents, qui travaillent sur, pour promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes. Alors, ce sont des professionnels. Moi, en arrivant dans le cadre de ce mandat, j'ai été extrêmement impressionnée par la qualité et par le niveau de ces professionnels. Et par leur ouverture d'esprit également, parce qu'il en faut quand on parle de ces sujets-là. Et donc le but de la Maison de l'égalité et ses moyens, c'est avant tout d'accompagner des projets. Donc on accompagne tout type d'acteurs dans des projets liés à l'égalité femmes-hommes. Ça peut être des compagnies théâtrales, ça peut être des écoles, ça peut être un centre socio-culturel, une commune qui souhaite préparer une conférence sur le sport et les femmes, par exemple, ou encore un prof qui voudrait parler de l'histoire de l'égalité des droits des femmes avec ses élèves. On prête des outils, c'est important. Ça peut aller d'une exposition photo à des bandes dessinées, des jeux, des livres sur l'égalité. Et on a un projet spécifique qui est l'appel à projet Jeunes pour l'égalité, qui soutient financièrement avec une dotation annuelle tous les projets qui seraient portés par des jeunes sur les sujets de l'égalité. Donc ça peut être un groupe de copains ou de copines, ça peut être une institutrice ou un instituteur dans une école, des voisins qui auront envie de partager un projet. Et ce projet sera financé par la métropole ou aidé, on l'a fait l'année dernière pour des conférences sur la notion de consentement. Est-ce que oui ou non je consens à ce que l'on propose? Donc là, évidemment, on ouvre à la sexualité, ça paraît clair. Et entre autres, pour ce sujet-là, par exemple, on n'avait pas financé, mais on ouvrait notre réseau, on faisait partager le réseau. L'autre sujet, donc, puisque j'ai parlé des réseaux, c'est l'animation des réseaux, dont le réseau acteurs publics pour échanger des pratiques et se qualifier sur des sujets. Donc, on a l'université avec nous, les communes, l'éducation nationale peuvent se saisir de ce sujet-là. Et la prochaine réunion qui va se réunir dans ma commune à Varsalières-Hérissé concernera plus particulièrement la petite enfance. Donc on est en plein dans le sujet aussi peut-être aujourd'hui. Le troisième point, c'est la valorisation de l'existant. Donc on tient un agenda des formations, des spectacles, des conférences, tout ce qui se fait dans la métropole sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Et enfin, la sensibilisation et les formations. Donc, en fonction des besoins que l'on ressent sur le territoire, on propose des formations. Moi, ce que j'avais proposé en arrivant, puisque justement, je suis une élue dans le cadre d'un mandat précédent, j'étais à l'Action sociale, j'ai pu constater qu'il y avait parfois un certain manque dans les communes de taille un peu moins importante, évidemment, que peut-être Grenoble et Chirol ou Saint-Martin-d'Hères, qui sont des grosses communes, donc avec une infrastructure et des agents parfois extrêmement professionnalisés et qualifiés. Dans les communes de taille un peu moins importante, on a parfois des agents qui peuvent être un temps sur un sujet, un temps sur un autre, et que quand on est au logement, puisque ça faisait partie de mon attribution, ou l'action sociale, on peut être en face, par exemple, d'une femme qui est victime de violences conjugales, et l'agent ne saura pas comment la recevoir, comment lui parler, comment l'accueillir. Parfois, un haussement d'épaule peut tout changer pour la perception de la victime. Donc, on a lancé une formation, entre autres des formations, et on invite les agents des communes à y participer, sur l'accueil des femmes victimes de violences. Voilà, donc quelques outils et quelques éléments pour vous renseigner sur la Maison de l'égalité, mais le meilleur moyen de se renseigner, c'est quand même d'aller sur le site internet Maison de l'égalité de Grenoble, et vous trouverez absolument tous les renseignements souhaités.
Yes, merci beaucoup pour cette présentation. Noémie, pardon, j'allais dire.
On peut dire quand même que Rémi, Léo et Lily sont arrivés.
Rémi est enfin arrivé avec les deux kids, on vous donnera la parole après, fallait arriver à l'heure. Nanani, nananer. On continue du coup à présenter et après on vous donne la parole les enfants. Cette fois-ci on présente Grandir Égaux, Noémie, s'il te plaît.
Oui, Égaux, EGAUX. Parce que des fois, certains pensent que c'est l'ego. Ça n'a rien à voir.
Faire grandir son ego. Oui, non, l'association pas... complètement bizarre.
Alors, du coup, je ne suis pas une association. Je suis formatrice indépendante, en fait, à mon compte.
Très bien.
Et voilà, j'ai travaillé auparavant dans les collectivités sur l'égalité femmes-hommes. C'est un sujet qui me tient à cœur avec la lutte contre les discriminations depuis des années. Et puis, j'ai eu l'envie de passer à mon compte parce que pour moi la formation c'est la clé, c'est-à-dire que on peut intervenir ponctuellement, mais quand on forme des professionnels, quand on forme des parents, on enclenche un changement qui est sur la durée, et c'est ça qui m'intéresse. Et donc c'est l'ambition de Grandir Égaux, c'est d'outiller tous les adultes qui sont en contact avec des enfants pour qu'il soit en capacité de réduire en fait l'impact des stéréotypes sur ces enfants-là, de moins les transmettre, de les déconstruire. Et donc ça passe par des formations, aussi des formations actions. J'accompagne des équipes, notamment dans les crèches et dans les périscolaires, les MJC. Je les accompagne à repérer les stéréotypes et à les désamorcer. Et je vais lancer également des ateliers pour les parents, qui là seront plus sous la forme d'un groupe de parole autour de thématiques sur l'égalité femmes-hommes. Et, bon, ça devrait démarrer en octobre, ça a été décalé beaucoup avec le Covid.
Mais
là, je touche du bois pour y arriver à les lancer ça à l'automne.
D'accord. Grandir Ego, depuis combien de temps ça existe ?
Eh bien, ça fait 3 ans que j'ai commencé à travailler sur le projet, mais je me suis vraiment lancée il y a 2 ans et demi.
D'accord. Ok. Eh bien, bravo.
Merci.
Bravo.
Donc on précisera aussi les lieux et dates des formations pour les parents.
Bien sûr.
Sur le site.
Dès que je les ai, je vous les transmets.
Super.
Dès qu'on a l'info, on transmet. Pas de souci. Et puis donc, nos invités qui sont finalement arrivés, et ça nous fait grand plaisir. Rémi qui est venu donc avec ses 2 enfants. Il s'agit de Léo, qui a 11 ans, et de Lily, qui a 6 ans. Bonjour.
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 Comment ça va aujourd'hui ?
Bien.
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 Bon, papa, il vous a mis en retard.
Hein. C'est peut-être l'inverse.
Il est 11h30, hein, donc le temps de... Voilà.
C'est clair, je te fais tomber exprès, Rémi. On se connaît, du coup, c'est pour ça. Alors, bah, justement, les enfants, moi, j'ai une petite question pour vous. Hein. Bon, alors, pour toi, on va commencer par... Lily. Lily, alors, pour toi, est-ce que les adultes font des différences entre les garçons et les filles ? Et comme quoi, par exemple ?
Est-ce que les grands, t'as l'impression qu'ils font une différence entre les garçons et les filles ? Comment on agit avec vous, par exemple ? Si t'es un garçon ou une fille, est-ce qu'on est différents, les adultes, ou pas ?
Non.
D'accord.
Non, très bien. Pour toi, c'est pareil. Et pour toi, Léo ?
Ça dépend pourquoi.
Oh, alors donne-nous un petit exemple. Par exemple, pourquoi ? Pourquoi oui, pourquoi non ?
T'as un exemple en tête ?
Non.
Tu pensais à quelque chose, à du sport, à...
Ah, tu réfléchis, Léo, si ça te vient, tu pourras le redire.
Ouais, tu nous le diras quand tu veux.
On vous prend un peu à brûle pour point là.
Oui, c'est vrai un peu quand même. Donc Flo, on va pouvoir passer à la première partie de cette émission.
Ouais, on va réfléchir aux attitudes parentales qui encouragent ou qui désamorcent justement les stéréotypes. Et puis on va écouter Erika qui elle a eu un peu une prise de conscience à un certain moment. Elle va nous expliquer pourquoi. On va l'écouter.
J'ai été marquée par une vidéo qu'on a vue au début de notre recherche. C'était une enquête de la BBC qui avait été faite où ils demandaient à des gens comme ça, lambda, vous devez venir vous occuper d'enfants. Et ils avaient habillé un petit garçon de, je sais pas, quelque chose comme 8 mois, 9 mois. Il avait habillé en fille, et il avait habillé une fille en garçon. Et il y avait un espace de jeu, en fait. Et il laissait les parents, la personne libre, cette personne lambda, de s'occuper de l'enfant dans cet espace de jeu. Et à peu près systématiquement, on amenait les filles se poser, on amenait des couvertures douces avec des jouets, on les faisait manipuler des poupées, on les amenait vraiment vers un endroit de douceur et de manipulation de petits objets, mais des jeux de représentation de filles. Et le garçon, on l'amenait sur le parcours de motricité, on le mettait sur le cheval à bascule, on le faisait bouger, on l'aidait à apprendre à marcher, à se déplacer. Quand j'ai vu ça, en tout cas pour moi, ça a été un choc. Est-ce que j'aurais réagi comment, moi ? Je suis pas certaine que j'aurais eu cette conscience-là de ce que je porte, en fait, comme stéréotype de où est-ce qu'on amène une fille, où est-ce qu'on amène un garçon. Et ça a été un point de départ, je trouve.
D'accord. Donc, pour Erika, c'est cette vidéo qui lui a fait se rendre compte qu'en fait, elle était pétrie de stéréotypes et qu'elle avait envie de se lancer pour faire évoluer ça. Noémie, est-ce que tu peux nous faire un petit point sur ce que c'est un stéréotype, pourquoi on en a tous et pourquoi c'est un petit peu important de les dépasser ?
Ouais, allez, en une minute.
Ouais, allez, même pas.
Top, c'est parti.
Donc, un stéréotype, pour définir rapidement, c'est une étiquette qu'on accole à un groupe et c'est une étiquette qui est forte. Elle est forte pas parce qu'elle peut pas changer, parce que les stéréotypes, ils changent dans le temps et ils sont différents selon les endroits du monde, mais fort parce qu'ils sont partagés par toute la société. C'est-à-dire que même si on n'est pas d'accord avec, on sait que dans notre société, on pense que le foot, c'est plutôt pour les garçons. Même si moi, je ne suis pas d'accord, je sais que dans ma société, c'est ça qu'on pense, de façon majoritaire. Et donc, on les connaît, et on les connaît parce qu'on est des animaux sociaux qui faisons partie d'un groupe et qui donc avons besoin de connaître les règles, les normes, les modèles de notre société. Donc, on commence à les apprendre dans l'enfance, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, et on continue de les apprendre toute notre vie, et ils nous infusent en fait, ils sont là dans notre cerveau, et ce que les études de psychosociologie montrent, c'est que même quand on est consciemment contre, ils impactent nos comportements malgré nous, et donc on les reproduit malgré nous. Et donc à partir de là, on pourrait se dire bon bah ok, c'est ce qui fait nos règles de société, c'est ce qui fait qu'on arrive à vivre ensemble dans une certaine façon. Donc pourquoi les dépasser? Bah pourquoi les dépasser? Parce que en fait, on se rend compte que ok, c'est les règles de vie commune, mais ces règles de vie commune, elles ont des sacrés effets secondaires qui sont des inégalités, des violences, des discriminations, et que donc l'idée, c'est de chercher un autre programme sur lequel fonctionner ensemble, d'autres représentations, d'autres normes. Et donc bah, ça passe par à la fois les institutions, à la fois les individus, de trouver comment ces stéréotypes s'infusent en nous et comment les désamorcer.
D'accord. Moi, ce que j'avais lu aussi sur la question, c'est qu'il ne faut pas culpabiliser parce qu'on a des stéréotypes, on en a tous, notre cerveau fonctionne aussi comme ça pour pouvoir programmer, catégoriser et puis agir vite,
oui,
et rapidement.
Oui, il y a aussi ça. Effectivement, c'est le fonctionnement de notre cerveau. C'est effectivement, en fait, quand on est chez le bébé, il y a un nombre infini de neurones et de connexions neuronales. Et c'est ce que la nature a prévu pour nous adapter à notre société. Donc des fois, on essaie de dire les stéréotypes, est-ce que c'est naturel, est-ce que c'est culturel? En fait, c'est les deux. Parce qu'en fait, on est un animal social, donc un animal fait, programmé pour s'adapter à notre culture. Donc, en voyant ce qu'il y a autour de nous, en apprenant les stéréotypes, on va réduire le nombre de connexions neuronales, on va garder que ce qui est important pour la société dans laquelle on vit, on va se conformer à la vie qu'on connaît. Et c'est ce qui permet notre survie, en fait, d'être accepté par le groupe, de comprendre comment notre groupe y fonctionne et comment on y arrive.
D'accord.
Et effectivement, c'est ce que tu dis, il ne faut pas culpabiliser. Et moi, je pense qu'il vaut mieux partir du principe qu'on est sexiste. Voilà.
Allez.
Je suis sexiste.
De base.
C'est normal. Je suis née dans une société sexiste. Je grandis dans une société sexiste. Je suis entourée de ça. Donc, je peux. Voilà. Mais par contre, ça ne veut pas dire que je ne peux pas en faire quelque chose et que je ne peux pas pousser les groupes autour de moi.
Et déconstruire et pousser la réflexion,
voilà.
Et tout.
Exactement. Mmh.
D'accord, donc les parents qui sont là, comment vous repoussez les stéréotypes au quotidien? Qu'est-ce qui, dans votre attitude, dans les valeurs que vous transmettez aux enfants, vous permettent justement de les interroger et puis peut-être de les déconstruire? Peut-être pas tous.
Moi, j'ai l'impression que souvent c'est l'exemplarité qui fait que... Mmh. Et que déjà, la façon dont nous, on est, par exemple, dans le foyer, on est en couple, et comment on se joue le couple, ce qui se fait au quotidien, je pense que déjà, ça construit ou déconstruit, hein, d'ailleurs, les deux, des choses. Parce que. Enfin, moi, je viens de loin. Moi, j'ai été beaucoup élevé par ma mère, et mon père, quand il était là, il en foutait pas une. Si tu m'entends, je t'aime, mais t'en foutais pas lourd. Et voilà, et du coup, bah, c'est vrai que moi, pour aujourd'hui être le père que je suis, j'ai dû aussi avancer là-dessus. Et c'est pas l'exemple que j'ai eu, j'ai pas grandi là-dedans. Et du coup, naturellement, en tout cas, ça m'était pas naturel d'être le père que je suis au foyer aujourd'hui. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des choses qui ont dû se construire, déconstruire. Mais voilà, en tout cas, moi, j'ai l'impression que ça passe déjà aussi par ça. Par papa, maman, comment ils fonctionnent, qu'est-ce qu'ils font, la répartition des tâches, etc. Parce que mine de rien, on vit chez nous, dans l'espace public, et puis à l'école, en tout cas les enfants, voilà, c'est un peu, enfin, j'ai l'impression que c'est un peu ce triptyque-là, après peut-être les médias, dans lesquels les choses vont se jouer, quoi. Mais bon, le foyer, j'ai l'impression que c'est quand même le premier levier où il y a des choses qui se passent. Quoi.
C'est le premier monde, quoi. Donc,
ouais, c'est un peu
la première observation qu'on a, et du coup, le mimétisme qui se met forcément en place. Quoi.
Après, moi, tu vois, ce qui est intéressant, c'est que je suis vraiment pas un bon exemple, parce que pour le coup, au début, j'étais très con là-dessus. C'est-à-dire que, par exemple, les premières Barbies qui sont arrivées dans la chambre de Lily ou les premiers flingues qui sont arrivés dans la chambre de Léo, je les ai mis à la poubelle.
Je me rappelle de ça.
Ouais. Et parce que justement, je voulais pas rentrer dans ces stéréotypes-là. Mais en fait, c'était il y a un petit moment. Mais j'en reviens. Mais c'est vrai que c'était un peu con parce que finalement, c'est pas parce que t'as une Barbie ou que t'as un flingue dans ta chambre
c'est pas pour ça non plus qu'en fait ça va accentuer des choses. Tant que tu viens proposer autre chose, moi aujourd'hui j'en suis là, tant que tu viens alimenter avec autre chose, ouais, c'est pas grave. Par contre, voilà, Lily, elle est girly, elle adore les trucs girly. Pour autant, elle a plein de... Enfin, c'est pas parce qu'elle est girly et qu'elle aime bien se saper avec tous les stéréotypes d'une fille. Pour autant, dans sa personnalité, elle a plein de trucs qu'on peut coller aux garçons, quoi. Voilà, du coup, les choses sont à nuancer, parce que c'est pas si simple que ça, quoi. Voilà. Tu rentres dans la chambre de Lily, il y a beaucoup de stéréotypes de trucs de filles. Pour autant, bon, il n'y a pas que ça, mais il y en a beaucoup. Et en même temps, comme elle est, comme elle agit, je pense que, voilà, il y a des choses qu'on lui a transmises. Et sa personnalité fait que, bah, finalement, elle déconstruit aussi plein de choses parce qu'elle est, quoi.
D'accord. Yes. Delphine,
aussi le travail sur la prise de conscience qui est assez, qui permet aussi, enfin voilà, de se dire, ben la vidéo comme l'extrait qu'on a vu, moi j'aime bien en parler parce que on, voilà, de voir comment on a tous ce biais là en fait, quand là elle le dit, là Erika dans l'interview, on pense pas qu'on puisse être autant, voilà, faire autant de différence, et en fait on en fait. Moi il y a des petits trucs, moi là j'ai les deux dernières, c'est des filles, et par exemple il y a un mot que j'essaye de jamais dire, c'est allez les filles, on va faire ça ou quoi. Voilà, il y a des petites attitudes comme ça, des mots, des trucs, on essaie de faire gaffe. Après, sur les émotions, je pense que dans le couple parental, on est bien conscient du dérapage possible par rapport à ça. Donc sur les émotions, il n'y a pas trop de différence. Mais sur le vocabulaire, voilà, le compliment, t'es belle quand t'es habillée pour la fille, il faut arriver à le dire autant pour le garçon que la fille, enfin qui que ce soit en fait, l'enfant qui est en face. Voilà, c'est des petites attitudes au quotidien à être vigilant en fait. Voilà, nous c'est un peu là-dessus qu'on est.
Oui, carrément.
Moi j'ai pensé aussi dans la façon dont on touche les enfants. Moi j'ai un garçon et une fille et j'ai essayé vraiment d'avoir des touchés délicats aussi pour mon petit garçon et d'être dans quelque chose aussi de doux, pas être tout le temps dans le dynamisme, dans la stimulation, justement pour qu'il ait une expérience de quelque chose de plus doux, voilà, tout simplement. Je pensais à ça. Et sur la question de la prise de risque, tu en parlais un petit peu, Rémi, quand tu disais que Lily, elle pouvait aussi avoir des attitudes qu'on peut plus attribuer au masculin qu'au féminin. Est-ce que vous avez quelque chose à en dire, vous, par exemple, comment vous encouragez la prise de parole, la prise de risque, les choses où les enfants vont plus être en action qu'en réflexion?
Non, moi, je crois qu'on est sur là-dessus, on a la prise de risque, elle se fait bien. Après, c'est plutôt laisser la place, selon l'âge, finalement, que le genre. C'est plutôt aussi ça, chose qui est intéressant après dans une fratrie, c'est laisser la place, quelle que soit sa position, pas forcément par rapport au genre. Plus.
Ouais, j'ai pas trop de réponse à cette question, moi ça se joue aussi plus aux personnalités, c'est-à-dire que finalement, Léo, il est plus maladroit, il a un côté plus gauche, Gaston Lagaffe, du coup on va peut-être des fois plus faire attention à Léo, qui est carrément plus grand. Léo il a 11 ans, Léo elle a 6 ans. Et ben aujourd'hui, par exemple, moi, j'ai un peu tendance à faire un tout petit peu plus attention encore à Léo sur les trucs un peu physiques, par exemple, parce qu'il est super maladroit, alors que Lily l'est moins. Et bon, donc ça se joue pas forcément au fait que ce soit un garçon ou une fille, quoi.
Très bien. Il y a Corinne qui voulait prendre la parole, et puis après Noémie.
Oui, moi, je voulais juste conforter ce qu'avait dit Rémi, c'est que, à mon sens, ce qui compte le plus, c'est l'exemple qu'on donne chez nous, hein. Donc, pour le coup, je parlerai pas du tout de chez moi, parce que c'est encore vraiment, faites ce que je dis, mais faites parce que j'ai fait. Et, mais bon, on va tout rater non plus, hein. Mais il est évident que quand celui qui bricole dans la maison, celle qui bricole dans la maison, appelle systématiquement le garçon parce qu'il faut aller démonter un pneu ou etc. Évidemment qu'on maintient tout le monde dans des stéréotypes, alors que faire attention à la sensibilité des uns ou des autres, ou se dire tiens, celui-ci est moins... En fait, il faut plus faire attention à ce qu'il est et faire passer le genre après. Ça compte finalement pas tant que ça d'être un garçon ou une fille. Et en tout cas, moi, je me dis que ce que Rémi dit par rapport à ses enfants-là, et notamment Lily, puisqu'il disait qu'elle était déjà dans un petit peu des clichés, etc., et bien évidemment, elle est riche de ses différences, de certains de ses clichés, et puis surtout riche de la chance d'avoir des parents qui ont su conscientiser justement tout ça et faire attention de maintenir, d'essayer d'aller vers une éducation justement plus égalitaire afin de donner les mêmes droits aux deux. Parce que c'est quoi le bout du bout? c'est que si les filles sont cantonnées dans la douceur, dans le coton, la beauté, etc., bon, une fois que toutes celles qui auront pu être mannequins, enfin voilà, on ne remplit pas une société avec ça, hein, eh bien, on se rend compte aussi qu'il y a des métiers qui sont, parce que marqués plus masculins, ne trouvent aujourd'hui plus de volontaires. Hein. Enfin voilà, c'est qu'on donne la chance à tout le monde de trouver son bonheur en faisant l'électricité, la maçonnerie, enfin voilà, des choses qui aujourd'hui attirent peu de femmes. Et moi, je sais que sur les réseaux sociaux, dès que je vois une garagiste qui cherche du boulot, etc., bon, en général, je ne cherche pas longtemps, mais voilà, de la mettre en avant. Et puis, pour ce qui est des institutions, à la métropole, on avait fait un peu de communication sur nos métiers techniques, ou bien évidemment sur les métiers techniques, comme toutes les communes. Hein, on n'est pas bon en termes d'égalité, puisque ce sont des métiers qui sont souvent occupés par des hommes. Et bien, justement, volontairement, on met un homme et une femme en photo, où on va promouvoir la femme... Qui occupe ce terrain-là, et on va la promouvoir avec un masque et un casque, et peut-être un masque aujourd'hui et un bleu de travail, et non pas un casque et un bleu avec un grand décolleté. Voilà.
Noémie ?
Oui, je voulais juste rebondir sur ce que Rémi et Delphine disaient. Ce qu'on sait, c'est que les stéréotypes, là où ils sont le plus forts, c'est quand on ne connaît pas la personne. C'est-à-dire qu'une fois qu'on connaît la personne, en fait, personne ne correspond parfaitement aux stéréotypes des filles et des garçons. Enfin, je pense qu'autour de cette table, il n'y a personne, même des personnes très très féminines ou très très masculines. Ils ont forcément des contre-stéréotypes à l'intérieur de ces... Ça n'existe pas, cette folie-là de la femme et de l'homme. Et donc, du coup, ce que les études... Et, l'expérience de la BBC, c'est avec des enfants qu'on ne connaît pas. Et donc, là où c'est important d'être particulièrement attentif, c'est dans les situations où on ne connaît pas les gens, parce que pour apprendre à se connaître et pour créer du lien, on va se baser sur ce qu'on connaît, sur ce qu'on pense partager, et donc on va se baser sur les stéréotypes, beaucoup plus qu'une fois qu'on connaît nos enfants. Après, c'est juste être attentif à... Parce que ce que les études nous montrent aussi, c'est que le cerveau va avoir tendance à chercher confirmation de son stéréotype. Donc, on va pouvoir remarquer ce qui va bien avec le stéréotype. Tout ce qui est de dire « Ah, c'est un vrai petit garçon, ah, c'est une vraie petite fille », c'est ce truc de « Ah tiens, je remarque que mon enfant, là, il se conforme bien au stéréotype. » Et donc, je me rassure, entre guillemets, en mettant ça en avant et en mettant pas forcément l'autre côté en avant. Et donc, c'est vachement important de rester attentif à toutes les facettes de l'enfant qu'on a en face de nous et de ne pas s'arrêter à la façade, effectivement. Et,
bien sûr.
Ces trucs, et de mettre aussi en avant toutes les facettes de sa personnalité.
Et oublier l'histoire de sexe, de genre, quoi, en fait, tout simplement. Parce que, bon, alors, petite parenthèse personnelle, hein, moi, j'ai un grand frère, quand j'étais petit, il était plus costaud que moi. Alors, du coup, ça venait tout seul entre deux frères. Lui, il est plus manuel, et lui, il est plus intellectuel. Donc ça, pareil, t'en hérites et tu tombes dans un stéréotype de dire, bon ben, la personne un peu plus frêle, ce sera plutôt la tête, et puis l'autre qui est plus costaud, ce sera ben, le manuel, tout ça. Alors qu'en fait, ça conditionne un peu déjà plus tard, et puis ça te fait faire des trucs que en fait, t'avais pas envie, quoi. Voilà, j'arrête ma parenthèse.
Puis on finit animateur radio.
Et puis j'ai fini à faire animation radio, mais je bricole un peu, attention. Il n'y a pas de souci.
Moi, je trouve, en tout cas, pour continuer sur cette discussion, ce que je trouve intéressant qui se joue en ce moment-là, je trouve, dans la période qu'on vit actuellement, c'est ce qui se joue sur l'imaginaire. Parce qu'en fait, la façon dont on raconte le monde aussi, produit aussi, nous renvoie des choses sur ce qu'on a envie d'être, sur ce qu'on a envie de renvoyer, etc. Et du coup, dans ce qui se joue aujourd'hui, je trouve, dans la littérature ou dans la fiction, dans les séries, par exemple, en particulier, je trouve qu'il y a quelque chose qui est en train de se jouer justement sur les stéréotypes et sur les genres aussi en particulier. Aujourd'hui, par exemple, quand tu vas sur Netflix, que tu regardes des séries, il y a beaucoup de séries qui déconstruisent de plus en plus paquet de stéréotypes qui vont mettre en place des personnages forts, que ce soit féminin ou masculin. Tu vois, il y a plus de, je trouve qu'il y a de moins en moins de différences, par exemple, entre des personnages forts masculins ou féminins. C'est en train de basculer, il y a une égalité qui se fait, et je trouve ça, c'est intéressant parce que je crois qu'on est dans une société où l'imaginaire a vraiment un gros poids. Et ça, je pense, sur les générations qui arrivent, ça va avoir un effet assez puissant.
Ça va être un nouveau point d'appui.
On voit le dernier Disney, d'ailleurs, qui est Raya et le dernier dragon, que ma fille a à peu près regardé 50 fois pendant les vacances. Donc, c'est la fille qui est une héroïne. Il n'y a pas d'histoire d'amour. Et elles finissent par dépasser la rivalité féminine de départ. Et du coup, on est vraiment, comme on dit, il y a pas de prince, il y a personne à sauver. Mmh. Les filles, elles sont costauds. D'ailleurs, la deuxième, elle a justement des stéréotypes d'expression. Elle a une expression de genre qui est plutôt masculine. Et du coup, voilà, on arrive à aussi des nouveaux physiques, en fait. On n'est pas encore dans les personnes non-binaires ou transgenres dans le Disney, mais moi, je suis carrément sûre que ça peut arriver.
Ça évolue de partout, du coup. Ouais. Mais c'est vrai, l'imaginaire, c'est super important, en fait. C'est un point d'appui abstrait qui, en fait, conduit vachement à conditionner ou à changer un peu des habitudes de vie. Flo,
ouais, on va conclure.
On a plus de kids ouais. Ici, c'est pas grave.
On peut les rappeler.
On leur posera des questions après. On les posera les questions après. Pas de souci. Oui, pour finir, Flo.
Ouais, on conclut avec Erika qui nous fait une petite transition vers la deuxième partie. Puis avant, on fait une pause. Enfin, après, on fera une pause musicale.
Récemment, ma fille avait une cravate avec une chemise, avec une jupe, avec des grosses boots, puis avec un maquillage. Puis je lui dis, ah, j'aime bien ton équilibre masculin-féminin. Elle me dit, mais maman, mais qu'est-ce que t'es stéréotypée? Une cravate, c'est pas forcément masculin, puis une jupe, c'est pas forcément féminin. Purée, ça brasse, hein? Wouh!
Donc sa fille a 15 ans.
Ah oui, bah ouais. Yes. Ben on va finir cette première partie, c'est bien ça, hein, Flo.
Ouais.
Voilà, je suis un peu tout ça. On va faire une petite pause musicale et on se retrouve juste après pour la deuxième partie de notre émission consacrée à l'éducation égalitaire et on parlera d'environnement éducatif. Restez avec nous sur News, les amis. On s'écoute un simple constat d'REDK. Montez le son. On se retrouve juste après.
Et maintenant que le son tourne, je trouve ça pète, truc de fou. Les gens autour de moi bougent la tête, brisent leur cou. Les idées germent dans ma tête, tout d'un coup je me dis pourquoi pas faire le simple constat 5 sur le foot. À l'heure où les MC jouent des coups pour la première place, ou beaucoup pour le coup sans doute se seront relégables. Avec Marine Méphase, j'ai la formation parfaite pour décrocher la Victoria à la David Beckham. En deux mesures je peux t'achever parce que mes chansons speed. De plus tu n'es qu'en PHB, je joue en Champions League. On a un niveau terrible en rime, tu veux tester? C'est hilarant, tellement marrant que même Thierry Henry, il nous prenait pour des débutants, mais balle au pied, oui. Je suis capable du pire et du meilleur, tout comme Balotelli. Sous-estimé car pas connu, je trouve pas ça super. Faut pas se fier au nom parce que face à caca, tu n'es qu'une merde. Big up à tous nos supporters qui n'ont jamais lâché. À ceux qui ont changé d'avis, ouais les fans de l'après. Mais je ferai remarquer que les vrais connaisseurs sont ceux qui avant la coupe du monde ont aimé Jacquet. Le foot est une religion, je dis ça parce que l'on est tous en admiration devant le Messi barcelonais. Et Samuel Eto'o, face à nous les plus vantards ont tous fini sur les brancards des Samuel Eto'o. Se resserre quand je rime frère, c'est l'hystérie. J'ai pas vu plus terre et plus franc que Ribéry. Pourquoi s'obstiner ces bonnards? Je t'explique à quoi bon flipper quand on a Eric dans son équipe. Avoue que c'est triste ça non. Dans le foot y'a trop d'euros. Regarde les salaires de Ronaldo ou de Cristiano. Il touche de trop gros chèques, des insultes aux clochards pour avoir fait de beaux crochets ou de belles feintes à la Okocha. Est-ce que tu vois le schéma? Pendant que je manie la rime, le petit Karim roule en Mercedes-Benz. Et moi, je reste ce mec toujours OP pour sa clique. J'écris mes textes en conduisant dans mon Opel Corsa grise. Incomparable aux riches du Qatar. J'ai pas la thune à Zlatan ni celle d'Abrahamovic. Compare pas les charrettes et son lit de poli. De le coup de tête de Zidane n'égalera jamais celui de Boli. Certains se prennent pour les meilleurs, c'est un Pelé. Leur seul moyen de l'être c'est de mettre le maillot de Johan Pelé. Faudrait leur rappeler que c'est pas respect quand les Diego. Qui Diego est le roi Pelé. J'suis arrivé, t'es par terre, tu démarres pas. J'ai la manie de dribbler tout comme Athem. Ben Arfa prend ce freestyle comme une bombe. Un attentat, un grand coup de pression ou une mise à l'amende en bas. Les jaloux Jacques, sème la zizanie. J'aime pas les MC Mito qui font dans le pipo comme Inzaghi. Avoue que c'est grotesque, et oui l'ami on progresse. Tout en restant modeste, quand même pas mis. Oh, on trempe par à nous-mêmes. On attend le retour du bon rap, un peu comme celui de Drogba à l'OM. Certaines, pour nous avoir, font les yeux doux, consultent des marabouts. Mais Marseille est dans l'âme, il n'y a que les buts de Niang qui m'amadou. Ce son est loin d'être banal, tout le monde bug. Il mériterait sa palette dans le canal Football Club. Normal, c'est abusé, oh. Pourquoi m'accuser, oh. Le seul arbitre, l'adversaire et la fille, j'ai pas touché, oh.
Laissez-le tranquille, ce bandao. On est là pour écouter du bon football. On repart pour la deuxième mi-temps. Avec qui? Avec mes amis Soprano et REDK. C'est ça le football.
Plutôt que traîner, rêver de sale Rolex et faire du son, j'aurais préféré être entraîné par Sir Alex Ferguson. Je vois d'ici ce qu'il faudrait faire, aller au charbon sans faire de blabla. En gros, retrousser ses Manchester. J'aurais été artiste, qu'on admire comme Samir. Un joueur sans pression qui sous la menacerie. Numéro 10 arrogant, sans merci. J'aurais renforcé mon arsenal comme fait Wenger avec Van Persie. Crois pas que je dis va gros. Mais maintenant, j'ai décidé que je n'avais plus de concurrent, non pas de Rivaldo. Rien avant comme Ronaldinho. Je veux que mon talent soit reconnu un peu de partout, de Romario jusqu'au Comore. Il fallait bien, on va pas reprocher à Michael de représenter les siens. De plus, les mythos ne m'arrêtent pas. Je reviens deux fois plus fort après les critiques comme Nicolas Anelka. Je rends hommage avec humour à cette discipline qui réunit les blancs, les noirs de Gourcuff à Kufour. J'envoie des bastos et je préfère prévenir, ne jamais se mettre dans le mur, surtout si c'est Dibril qui tire. Dans le public, sa gueule, les boss démissionnent. J'ai la technique insolente, un peu comme Chris Waddle et Denilson. Pas que ce soit simple, mais c'est tout comme. Suffit d'une panenka pour transformer le meilleur gardien du monde en bouffon. News
FM. On est de retour dans ce Parents Live numéro 17, les amis. C'est la rentrée pour Parents Live, l'émission consacrée à la parentalité sous toutes ses formes. Et aujourd'hui, le programme, le sujet de cette Parents Live, eh ben, c'est l'éducation égalitaire. C'est quoi ton genre de parent, Flo ? On est de retour, donc.
Oui, on est... Ouais.
Je t'entends. Attention.
Ouais, on est de retour et je pense que c'est important à ce moment-là de l'émission de faire un petit point vocabulaire.
Ah, allez, c'est parti.
Non, en fait, je m'inspire juste du podcast Camille qui est produit par Binge Audio et elle a fait un podcast justement pour qu'on mette des mots sur des choses qu'on mélange souvent et moi, ça m'a éclairé. Donc en fait, pour elle, on fait une différence entre le sexe biologique, celui qu'on a à la naissance, qu'on voit, un pénis ou un vagin, le genre qui est masculin ou féminin et donc qu'on peut choisir si on a envie d'être autre chose que notre sexe biologique à la naissance. Après, il y a l'orientation sexuelle, c'est quel choix on fait si on est homosexuel, asexuel, hétérosexuel, pansexuel. Et puis après, c'est l'expression de genre, c'est comment on s'habille, quel code vestimentaire on adopte. Donc on peut tout à fait avoir un sexe biologique de fille, être cisgenre, donc se sentir femme avec un sexe de femme, et puis adopter une expression de genre qui sera avec une identité plus masculine. Et puis après, avoir une orientation sexuelle, par exemple, homosexuelle. Mmh. Donc voilà, quand on a le sexe, le genre, l'orientation sexuelle et l'expression de genre, on voit un petit peu quatre choses différentes qu'on a tendance un peu à brasser, à mélanger, et ça me paraissait important de refaire le point... Ce petit point vocabulaire à ce moment-là de l'émission.
Très bien, merci. Et donc, c'était un podcast de Camille Regache.
Que je remettrai tout dans le descriptif de l'émission.
Ok, nickel. Alors, on a parlé stéréotypes, on a parlé conditionnement, on a parlé tout ça. Moi, j'ai des petites questions pour Léo et Lily, si vous voulez bien y répondre. Vous êtes toujours avec nous ?
Oui.
Ah, soupa, génial. Alors, par exemple, tiens Léo, est-ce qu'on t'a déjà dit que tu aimais des trucs de filles pour se moquer de toi ?
Non.
Non ? Trop bien.
Pas que je me souvienne.
Pas que tu te souviennes ? Eh oui, de ton grand âge, ça commence à remonter, ces histoires. Et que font, qu'est-ce qu'ils font les garçons et les filles en cours de récréation ? Est-ce que tu peux nous donner une petite...
Souvent, on est séparés quand même, souvent. Enfin, au collège, quand même...
C'est quelqu'un qui vous sépare ou non ? Vous séparez de vous-même ?
Ouais.
Ouais.
Mais au collège, quand même un petit peu moins, mais... À l'école, on était vraiment en groupe séparé, quoi.
D'accord. Ouais. Toi avec les copains et les filles avec leurs copines.
Ouais. Et du coup, on jouait pas trop ensemble.
D'accord.
Des fois, on joue ensemble, mais souvent non.
Tu jouais pas avec
un autre ? Eh, ça balance des petits noms. Eh ben tiens, toi, Lily, s'il te plaît, est-ce que tu peux répondre au même genre de questions ? Est-ce que toi, on t'a déjà dit des trucs de garçon pour se moquer de toi ?
Non.
Non ? Pas du tout ? Non. Mmh. Et toi, dans la cour de récréation, alors ça joue à quoi, les filles et les garçons ? Mmh. Approche-toi un peu du micro, tiens, n'hésite pas.
Vous jouez à quoi, les garçons ? Toi, tu joues à quoi dans la cour ?
Mmh. Ah oui, il est bien, ce jeu. Mmh. J'ai déjà joué, moi aussi, une fois.
Lily, est-ce que tu trouves... Enfin, je te vois pas. Est-ce que tu trouves que les filles et les garçons, ils ont des jeux différents dans la cour de récréation ? Toi, tu sors juste de la maternelle. Alors, en maternelle, c'était comment ?
Des fois, ils jouaient au même jeu que moi.
D'accord.
Ok, trop bien.
Super. Si vous voulez vous pencher un peu sur la question, bon, y a plein d'études qui ont été faites sur qu'est-ce qui se passe dans les cours de récréation. Il y a notamment un documentaire de Claire Simon qui s'appelle Récréation qui parle de ça et qui est super, qui montre un peu souvent comment les garçons sont plutôt au milieu, les filles en périphérie. que les jeux d'action, notamment les jeux de ballon, sont beaucoup faits par les garçons et les plus grands, et que les petits et les filles sont dans les coins. Voilà. Moi, j'ai un souvenir d'enfance comme ça, quand on jouait au foot, genre les filles, ça marquait 2 points. On était tellement nuls qu'on prenait le risque que ça puisse être 2 points quand on marque. Quoi.
Mais c'est parce que vous étiez nuls, pas parce que vous étiez des filles.
Ben non, on était peut-être nuls parce qu'on était des filles, mais on jouait jamais au foot en fait.
C'est là, attention qu'il faut faire attention.
Mais ouais, mais c'est ça. Corinne ?
Oui, je voulais juste rajouter par rapport à ça, parce qu'en ce moment, on est vraiment dans l'actualité, parler des cours de récréation et du foot. Effectivement, puis toujours jusqu'en CM2, parce qu'après au collège, c'est un peu la honte de jouer au foot, enfin, c'est un peu les petits, mais on se rend compte en allant dans toutes les écoles, enfin, globalement, que l'espace central est très occupé par un jeu de football qui est très genré, donc ce sont essentiellement les garçons qui y jouent. Alors, est-ce que parce que les filles ne veulent pas y aller, est-ce qu'elles sont interdites ? Il faudrait enquêter sociologiquement, mais on se dit qu'il y a peut-être un peu des deux. Et puis, autour, les filles qui font un peu de danse, qui vont jouer avec des objets sur le sol. Et aujourd'hui, moi, je trouve qu'on se moque parfois un peu violemment, mais on est dans une société peut-être un peu de caricature. On se moque des élus qui essayent de dégenrer. Alors, rien que le mot, il fait hurler, mais il faut un peu réfléchir à ce qu'il y a derrière ces mots-là. On essaye justement de casser ces stéréotypes qui nuisent aux filles et aux garçons, et à la société de manière générale, et à l'entreprise même de manière générale. Parce que c'est pas bon pour une entreprise d'avoir que des filles ou que des garçons. Donc on en revient à ce que je disais tout à l'heure, la mixité des métiers et tout ça, c'est important. Et donc dans la cour d'école, lorsque l'on dit on ne veut pas mettre de foot, etc., c'est pas qu'on ne veut pas mettre de foot, je ne veux pas interpréter, enfin, mais je devine la pensée de cet élu qui est un petit peu caricaturé. C'est pas qu'on ne veut pas mettre de foot, c'est qu'on veut laisser à tout le monde la possibilité de faire ce qu'il a envie de faire. Et donc, effectivement, si on interroge un garçon, il va dire « oui, je joue au foot », parce qu'il va parler devant ses copains, parce que quelque part, il y a une image, et puis parce qu'il ne va pas forcément réfléchir à ce qu'il pourrait aussi avoir envie de faire. Donc, l'idée n'est pas d'interdire le foot, mais peut-être de le faire de manière un peu plus participative, avec des adultes qui font autre chose que de laisser faire et qui, justement, sont plus inclusifs et incluent tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est ceux qui n'y jouent pas et celles qui n'y jouent pas, donc les filles. Mais ça peut être aussi les enfants, on parle de harcèlement, l'enfant porteur de handicap, enfin voilà, tous ceux qui sont différents, qui ne sont pas dans cette majorité footballistique, puisqu'elle a un peu ça, cette majorité virile et forte. Voilà, de déconstruire un peu ça et de laisser un peu sa place pour tout le monde. Et puis laisser aussi aux petits joueurs de foot la possibilité d'aller danser un peu sur le côté avec d'autres ou jouer avec quelque chose. Donc on n'est pas dans l'interdiction, c'est caricaturé de dire ça. C'est au contraire de la participation et d'être plus à l'écoute des enfants pour savoir ce qu'au fond d'eux, ils aimeraient réellement faire et puis de leur permettre de proposer des choses.
Très bien. Et vous, en tant que parent, est-ce que vous avez fait des choix au niveau de l'environnement de vos enfants ? On a parlé des dessins animés, des livres, mais aussi dans l'aménagement de la maison, le choix des jeux, des jouets, des activités extrascolaires. Qu'est-ce que vous avez mis en place justement pour essayer de contrebalancer les stéréotypes de genre ?
Je crois qu'il y a une bonne protection, c'est que déjà, on n'a jamais su le sexe de l'enfant avant la naissance. Et ça nous protège de nous-mêmes et des autres et des cadeaux. Donc, c'est-à-dire qu'on a vraiment tous les... Voilà, il n'y a personne qui achète une couverture, enfin, qui achète une petite couverture pour le bébé qui va naître ou je ne sais pas quel jeu. Donc, ça permet déjà d'évacuer tous ces trucs-là qui arrivent à la naissance, parce que personne ne sait, on ne peut pas anticiper. Et puis, nous-mêmes, quoi, de projection. Et après, dans les jeux, nous, on a le Père Noël qui amène beaucoup de jeux communs pour tous. Donc ça va être le truc de la queue à une cuisinière, il y a eu quoi, des capes là, les talkie-walkie, enfin voilà, il y a beaucoup de jeux de cadeaux communs qui arrivent, et en fait pour la fratrie quoi. Et puis après on a la chance, je pense aussi, d'avoir des enfants de sexes différents, du coup de toute façon ils ont tout à disposition, et je pense que c'est plus facile quand on est comme dans une fratrie où il y a des filles et des garçons, d'avoir cette liberté de jouer que quand... il va y avoir que des garçons qui... Voilà, peut-être des jeux de filles ont plus de mal à rentrer, et du coup on n'ouvre pas la porte à ça quoi. Donc voilà, la chance d'avoir aussi ça, c'est aussi que du coup ils peuvent aller chercher, aller fouiller. Mais dans le jeu, on fait gaffe. Après, sur les vêtements, pareil, d'essayer d'avoir des choses qui se transmettent facilement. Et l'autre fois en vacances cet été, il y a une petite fille qui faisait partie d'une fratrie de 3 filles qui a dit sur Thelma, ma deuxième, enfin, ça se voit qu'elle a, elle, c'est un grand frère qu'elle a parce que vu comme elle est habillée. Donc voilà, elle avait un t-shirt juste normal, pas rose à paillettes, et Donc voilà, ça se voyait trop que c'était des habits de son frère, quoi. Parce que sinon, elle serait pas comme ça. Elle aurait un t-shirt cintré avec un chamois grand cils à paillettes, quoi. C'était pas possible. Voilà. Donc voilà, dire d'avoir des vêtements aussi qui soient, ben voilà, passables d'un enfant à un autre sans que ça soit un problème, quoi.
Il y a une marque qui s'appelle Bonjour Maurice et qui fait des vêtements comme ça, réversibles et non genrés, du coup. Rémi, tu veux dire des choses par rapport à ça ?
Pardon, on n'a pas de stratégie mise en place. C'est-à-dire que du coup, comme je disais, c'est qu'en fait aujourd'hui, on a des chambres qui sont quand même pas mal stéréotypées au final. Mais voilà, c'est parce que c'est ce que veulent les enfants aussi. Après, des fois, on leur propose encore une fois autre chose, quoi. Mais voilà. Ensuite, de toute façon, tu sais, t'as les cadeaux des autres déjà qui font que de toute façon tu choisis pas. Voilà. Il y a ce qui se joue à l'école. D'ailleurs, c'est qu'à un moment donné, en fait, c'est ça, je trouve, qui est compliqué, de son dans plein de choses qu'on a envie de faire évoluer ou des choix qu'on veut faire différents, c'est que ça s'impose pas, c'est pas une injonction. D'ailleurs, faut pas que ça le soit pour personne. Et du coup, il y a le reste du monde qui est là, et du coup, faut que ça se fasse aussi. Les choses, faut qu'elles se fassent en douceur aussi. Ce que je veux dire par là, c'est que les choix qu'on fait aussi sont pas trop, enfin, sont
modérés.
Dans le sens où ça peut être compliqué aussi pour les enfants. Voilà. C'est-à-dire que ce que tu viens de dire là sur les SAP, je pense que ça va, c'est cool. Sur d'autres choses, ça, des fois, ça peut être un peu compliqué. Et nous, on est adultes, on peut assumer nos choix. Des fois, les enfants, c'est pas leur choix, c'est les nôtres, quoi. Donc, il y a ça qui se joue. Pareil, toujours, c'est un truc, c'est toujours... vous verrez, dans mon discours, je suis toujours dans un truc de nuance. Je suis bayrouriste, moi. Tu vois, non, mais c'est vrai, il y a un équilibre à trouver, quoi. Parce que entre voilà, ce qu'on a, nous, on a envie, etc. Donc voilà, donc. Bon, voilà. Tu vas dans la chambre de Léo, il y a un poster de Minecraft, de Zelda, de rappeur, tu vois. Et puis, ben, Lily, t'as plutôt des posters, voilà, de trucs girly, quoi. Bon.
Ouais, ça va, c'est Angèle, quoi.
Pas trop. C'est Angèle.
Ouais.
Voilà. Ah bon, ben ça va. Comme Flo l'a dit. Non, mais le doc a dit, non, mais c'est tout bon.
Non, mais ça va comme modèle.
Oui.
Ça reste...
Non, mais après, il y a des passages d'âge, je pense, qui sont vraiment durs. En fait, la primaire, pour moi, c'est la grosse douche froide, quoi. Enfin, mon frère, mon fils, justement, là, qui est rentré en CP, avec, maintenant qu'il lit, il y a deux jours, il m'a dit, j'ai joué au foot. Il n'avait jamais joué au foot en primaire. Il a joué au foot. Non, en fait, j'ai compris, il n'a pas joué au foot. Il a regardé les grands jouer au foot. Et d'un moment, le ballon est venu vers moi, j'ai pu le renvoyer. Et ok, en fait, les grands, on avait, dès le premier jour de la rentrée, avaient squatté l'ensemble de la cour pour jouer au foot. Et donc, du coup, lui, il avait l'impression d'avoir joué au foot. Mais non, il a regardé le foot, quoi. Et donc, voilà, et petit à petit, ben, je vois aux anniversaires, moi, j'ai toujours été, voilà, à dire, il y a les copains, les copines, de dire toujours à chaque fois à l'un, à l'autre, quand on parle, on dit alors les copines et les copains à l'école. Et petit à petit, ben, c'est de plus en plus chaud aux anniversaires d'avoir. Qui garde un réseau hyper mixte, et puis enfin social et tout, hein, donc le genre fait partie du truc, quoi. C'est compliqué, enfin la primaire, je trouve que c'est un passage chaud pour ça.
D'accord. Ouais, moi je rejoins un peu Rémi, quand tu n'étais pas forcément tout politisé. Moi j'ai mon petit garçon qui a fait sa rentrée avec une couette sur la tête et une petite doudoune sans manches rose, et je me suis dit, bon, est-ce que c'est un acte militant ou c'est juste simplement parce que sinon il a les yeux et les cheveux dans les yeux, quoi. Mais il y a un peu toujours les deux choses, et il faut être aussi vigilant sur comment on oblige nos enfants à certaines choses, quoi.
Mais c'est lui qui avait choisi, du coup, ou c'est...
Oui, il avait les cheveux dans les yeux, et du coup, il m'a demandé une couette, ouais. Oui.
C'est ça. Tu voulais réagir, Noémie ?
Ouais, enfin, moi, c'est vraiment... cette question de la liberté des enfants, elle est vraiment centrale pour moi. Et beaucoup, quand j'interviens dans les crèches et dans les périscolaires, on me dit, mais nous, les enfants, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Et ils sont libres, ils choisissent librement, et il se trouve qu'ils choisissent les stéréotypes. Et du coup, et c'est quelque chose qui se retrouve aussi chez des parents qui disent, mais moi, mon enfant, je l'ai éduqué de façon complètement non genrée. Et puis en fait, là, à 3 ans, ma fille, elle est dans une période complètement rose, etc. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce moment de 3 ans, là, c'est un moment qui a été montré par la science, par la psychosociologie, par Kohlberg dans les années 70, si je me trompe pas, comme un moment où l'enfant était particulièrement perméable aux stéréotypes de genre. Kohlberg, il a étudié l'apprentissage du genre par les enfants. Et donc, en fait, à 3 ans, tu connais les stéréotypes. En fait, tu les connais dès 2 ans, tu les connais parfaitement. Mais à 3 ans, tu as ce besoin de te conformer. Parce que tu as l'impression que si tu ne te conformes pas aux stéréotypes, tu vas changer de sexe biologique. Et donc, enfin, c'est l'hypothèse en tout cas qui est faite par les chercheurs là-dessus. Et du coup, c'est cette notion de liberté-là et de se dire, ben, du coup, quand cette période des 3 ans arrive et que ma fille veut plus s'habiller qu'en rose, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lui interdis le rose? Est-ce que je jette les Barbies à la poubelle? Ou est-ce que je les garde? Et par contre, je garde aussi d'autres jeux. Est-ce que quand il y a les cadeaux à Noël, je la laisse choisir tous ces jeux? Ou est-ce que je lui en laisse une partie, puis je lui en mets d'autres qu'elle aurait pas forcément pensé, mais qui je pense pourrait lui plaire? Et donc, la liberté des enfants, quand on dit juste, non, mais moi, je les laisse choisir. En fait, est-ce qu'ils sont vraiment libres dans une société qui leur met des injonctions toute la journée? Et dans la recherche, il y a une notion de frontière, en fait, entre les genres. Et moi, j'utilise beaucoup cette notion et je pense qu'elle est utile de se dire qu'est-ce qui, dans l'environnement de l'enfant, renforce la frontière entre filles et garçons ou la fait baisser? Et donc, c'est les jeux qu'on propose, l'aménagement de l'espace. Tout ça, c'est des petites choses où on va baisser la frontière et où, du coup, les enfants vont vraiment être libres de choisir. C'est-à-dire que voilà, quand il y a le foot au milieu de la cour et que les grands garçons y jouent, est-ce que les garçons qui y jouent sont vraiment libres d'y jouer, même si on leur dit pas, allez, tu vas jouer au foot, t'es un garçon? En fait, aujourd'hui, on n'entend plus beaucoup ça. On n'entend plus beaucoup, en fait, t'es un garçon, donc tu dois faire ça, t'es une fille, donc tu dois faire ça. C'est très peu dit de cette façon-là. Mais par contre, dans l'éventail des possibles qu'on laisse aux enfants, implicitement, on leur dit, on leur montre dans notre société qu'est-ce qui est pour les filles, qu'est-ce qui est pour les garçons. Et ils le savent très bien. Et donc, la question, c'est comment, en tant que parents, on les accompagne à ne pas se conformer s'ils n'en ont pas envie, en fait. Et à les laisser cette liberté-là d'explorer tout. Et donc, un petit garçon qui veut mettre du vernis à ongles à l'école, la question, c'est comment on l'accompagne pour qu'il le fasse et qu'il se sente bien en le faisant. Parce que la question, c'est pas non plus de nier qu'il peut être victime de moquerie, selon l'environnement dans lequel il est. Il peut être. Donc, comment on accompagne ça pour qu'il soit complètement libre, quoi. Mais voilà, la notion de liberté, c'est pas juste parce qu'on dit tu peux choisir ce que tu veux, que l'enfant est libre, parce qu'il porte derrière tout ce qu'il a appris, quoi. D'accord, donc, ouais.
C'est ça, le choix, la question du choix. Est-ce que c'est vraiment lui qui choisit, quoi? Ou qu'est-ce qui lui a permis de faire ce choix, en fait?
Et, dans une partie, c'est lui qui choisit, bien sûr.
Bien sûr, sur le final, mais qu'est-ce qui l'a inspiré?
Voilà, et nous, on travaille avec les professionnels sur comment on intitule les activités, quel est le genre de l'animateur ou de l'animatrice qui anime l'activité, ou est-ce que l'activité, elle est en extérieur, en intérieur, au centre, dans un coin? Toutes ces petites choses qui codent, en fait, pour l'enfant, l'activité comme une activité de fille ou de garçon, et on essaye de déconstruire tout ça pour que les enfants ils soient vraiment libres de choisir les activités sans chercher à se conformer à quelque chose, quoi.
D'accord.
Yes.
Si je pouvais parler juste une seconde justement de la formation pédagogique que propose la Maison de l'égalité femmes-hommes, c'est justement une formation qui s'adresse donc à des professionnels de l'enfance ou de la petite enfance et à des bénévoles. Et donc, pour des bénévoles qui s'occupent d'enfants de 8 à 12 ans, donc c'est une formation qui est proposée aux animateurs et qui propose donc des séquences de jeux sportifs où l'on va questionner, à l'issue de tout cela, on va intellectualiser un peu les stéréotypes qu'on aura pu avoir, les discriminations éventuelles, les choix de jeux des enfants. Donc, le but, c'est de conclure par une séquence avec un débat avec les enfants sur les émotions que tout cela leur aura provoquées et qu'ils ont ressenties donc, par rapport au jeu, leur faire parler de la situation, pourquoi est-ce que celui-ci est allé vers ce jeu-là et quel a été le regard des autres, le regard de l'instituteur, le regard de l'animateur. Voilà, donc c'est une formation. La prochaine session, elle a lieu les 7 et 8 octobre. Là, je m'adresse aux communes et aux différentes collectivités territoriales. L'idée est donc de former le maximum d'animateurs. On a jusqu'à présent une 60aine de professionnels formés. On essaye de faire en sorte qu'ils soient 2 à chaque fois pour pouvoir un peu mutualiser ce savoir et puis ensuite le diffuser. Donc l'idée étant d'arriver à regarder les cours et les lieux de jeu en faisant abstraction du genre, mais en faisant attention aux souhaits des enfants.
Merci. Merci beaucoup, Corinne.
Oui. On est toujours bon dans le timing.
dans le timing, comme d'habitude. D'année en année, on est toujours carré. T'inquiète pas. On va passer à la troisième partie.
Si oui, alors là, c'est le moment où on va parler de la tante au repas de famille qui a une réflexion qui va passablement nous froisser, ou les personnes dans la rue qu'on ne connaît pas forcément. Donc comment on fait dans les interactions avec les autres, les pros, l'entourage amical, la famille élargie, quand on lui fait des réflexions sexistes, donc à notre enfant ou aussi à nous en tant que parents? On a beaucoup interrogé notamment de papa dans le cadre de l'expo sur la place des pères, et avec certains professionnels de santé, notamment autour de la périnatalité. Il y a beaucoup de témoignages qui ressortent de mères surresponsabilisées et de pères un peu infantilisés, voire complètement niés. Donc, où vous en êtes, vous, Delphine et Rémi, par rapport à ça? Est-ce que c'est un combat quotidien, ou est-ce que vous laissez glisser sur la question de est-ce qu'on va éduquer ou pas les autres, ou chercher à les convaincre?
Moi, j'éduque pas les autres. Déjà, je m'éduque moi-même, c'est déjà bien suffisant. Et mes enfants, à peu près. Non, c'est... Moi, là-dessus, sur l'autre, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que je fais attention, justement, à pas être dans le jugement, dans la morale. Après, effectivement, les autres peuvent l'être avec moi-même. Mais là-dessus, moi, justement, j'essaye de vachement d'être assez fin là-dessus. Parce que moi, quand comment dire, il y a des personnes qui vivent pas comme moi, et des fois ils me le mettent en plein dans la tronche, et je ne supporte pas ça. Et en fait, ça, pour moi, ça me crée de la violence. Et du coup, je pense qu'à l'inverse, c'est vrai. Voilà. Du coup, là-dessus, quand on partage pas les mêmes façons de vivre, les mêmes valeurs, etc. Moi, j'essaye d'être pas dans le. Enfin, je vends. J'ai rien à vendre. Voilà. J'ai rien à vendre, et par contre, on peut en discuter, on peut échanger, quoi. Sans souci, si on n'est pas d'accord, c'est pas grave, quoi, je m'en fous. Enfin, voilà, je suis plus seul là-dessus, quoi.
Et si ce serait éventuellement des professionnels qui s'occupent de ton enfant, je pense aux instits ou aux personnes dans des activités extrascolaires?
Si c'est des...
Ouais, si tu remarques de réflexion, avec de l'entourage amical, mais plus avec des professionnels, ouais, qui sont au quotidien avec ton enfant.
Après, ça va pas être forcément sur des réflexions, mais peut-être des façons de faire. C'est-à-dire qu'effectivement, si par exemple, voilà, je sais pas, tu te rends compte qu'à l'école, il y a une façon de faire dans la classe qui est ultra sexiste, bon bah par contre, j'hésiterai pas, voilà, à solliciter l'institut pour en discuter, voilà, pour échanger dessus. Mais encore une fois, voilà, sans vouloir, voilà, l'institut, elle a 30 gosses, quoi. Donc si elle a 30 parents qui vient lui dire, moi je veux que tu fasses ça comme ça parce que moi c'est comme ça que je fais, on n'a pas fini. Mais voilà, en tout cas, en discuter, quoi. Voilà. Je pense que c'est comme ça que ça évolue, et puis c'est aussi avec des formations que ça évolue. Et je trouve que c'est vachement chouette ce que fait la Maison de l'Égalité là-dessus. C'est que j'ai l'impression que c'est comme ça aussi que les choses, elles vont avancer. C'est-à-dire que dans l'éducation nationale, à un moment donné, faut qu'il y ait des réflexions, faut que justement sur la question spatiale, la question des jeux, ben peut-être que les professionnels qui sont là, comment ils gèrent ça, comment ils le cadrent. Voilà, donc les formations feront aussi évoluer ça, quoi. Je pars sur autre chose.
Moi, non, je suis pas tout à fait ça. Enfin, pour moi, je suis un peu plutôt en colère contre moi-même de pas réagir assez des fois, quoi. Parce que justement, sur toutes les petites réflexions du papy, mais elle est charmante alors qu'elle a 18 mois, enfin, elle est charmeuse, non, mais voilà. Voilà, de pas réagir assez, des amis qui disent « Ah ouais, c'est vraiment des gars, mes enfants, enfin voilà. » Et de pas arriver à dire « Non, mais non, tu déconnes, là. » Enfin, voilà, elle a 18 mois, elle est en body, qu'est-ce qu'elle est charmeuse, quoi. C'est pas son sale souris, c'est juste son âge, quoi. Et tes enfants, c'est des enfants, en fait. Donc en ce moment, ils sont agités parce que c'est des enfants. Voilà, moi, je suis plutôt énervée contre moi-même de pas arriver à mettre la limite, parce que voilà, je pense que c'est important de faire prendre conscience, et par mon action, je pense qu'on peut, je sais pas, faire donner des leçons, quoi, mais juste de dire ben non, en fait, je sais pas, enfin non, il faisait déjà ça l'autre, je sais pas. Donc voilà. Et après, sur les professionnels, on n'a pas, enfin, je pense qu'il y avait vraiment un cas qui m'affolerait, j'agirais. Après, c'est des petits trucs, essayer de faire gaffe que ben, je sais pas, les instituts, enfin l'école ou la crèche appellent autant le père ou la mère par rapport aux activités, c'est un peu une base. Donc ça, essayer de se mettre, ben dire, des fois on fait gaffe à ça, quoi. Quand le responsable légal le met le 1, on essaye de mettre plutôt le numéro du papa, avec l'espoir qu'ils l'appelleront peut-être plus lui, vu que c'est lui qui bosse pas, qui sera peut-être plus dispo pour aller le chercher. Donc voilà, d'essayer de faire attention à des choses comme ça responsabilisantes, que ça soit pas systématiquement à moi qui soit noté, mais que le papa puisse avoir sa place autant, quoi.
Mmh. Voilà.
Ah ouais. Et c'est vrai que, plus que, comme je disais, quand on a des propos qui vont nous heurter comme ça, moi j'essaie de donner des exemples, en fait, dire bah non, tu vois, là, il a fait comme ça, et ce serait pas, ça correspond pas forcément à son stéréotype de genre, sans forcément rentrer dans un débat. Mmh. Mais juste donner un contre-exemple qui va venir contrebalancer la réflexion qui a été faite.
Et puis, en tout cas, moi, quelque chose que je trouve qui marche bien avec les enfants, mais qui marche aussi avec les adultes, quand il y a un stéréotype qui est exprimé, c'est juste de demander pourquoi. En fait, pourquoi tu dis ça? Pourquoi voilà, je te disais avant d'arriver, ce matin, j'étais avec ma filleule au parc et on a tombé sur des assistantes maternelles qui faisaient un petit atelier bricolage. Donc, ma filleule a squatté l'activité, donc je me suis retrouvée avec elle. Et puis, au moment de choisir les couleurs, il y a un petit garçon qui voulait du rose. Et en fait, l'assistante maternelle a dit « Attends, il y a ce rose-là qui était un rose qui était un peu plus rouge. C'est mieux pour les garçons. » Et puis là, j'étais là « Bon, bah déjà, on squatte leur activité. Elles sont gentilles de nous « Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dis quelque chose ou pas ?» Il y a toujours ce truc de « Bah voilà, c'est quand même la règle. C'est quand même la vie en commun. C'est quand même nos... » Et puis, je me suis dit « Bon, je vais juste demander « Mais pourquoi ça pose problème s'il veut prendre le rose ?» Et bon, la réaction était de dire juste... Bah non, mais quand même, c'est mieux pour les garçons. Donc, ça n'a pas eu beaucoup d'effet. Mais moi, ce que je me dis, c'est que déjà, pour elle, moi, je vais quand même poser la question. Donc, peut-être qu'à un endroit, ça fera germer quelque chose. Et surtout pour les enfants qui étaient là. Moi, c'est surtout pour ça que j'ai réagi. Et pas forcément dans l'idée militante de la convaincre et de la faire changer. Mmh. Mais plus dans le truc de dire, en fait, moi, je suis pas d'accord avec ce qu'elle vient de dire. Donc, très calmement, sans forcément vouloir lui faire changer d'avis, dire...
Tu lui proposes une autre idée ?
Voilà, juste dire, en fait, tout le monde ne pense pas comme ça, et je pense que par rapport aux enfants, c'est super important de dire, quand on voit quelque chose avec lequel on n'est pas d'accord, qu'un adulte dit aux enfants, on peut tout à fait dire, ben, moi, je suis pas d'accord avec ça, et pourquoi ? Enfin, c'est pas une évidence pour moi. Juste pour contrebalancer un peu, en fait. Et sans, voilà, sans forcément chercher à convaincre, parce qu'on s'épuise à vouloir faire changer les autres, mais juste contrebalancer, quoi.
Elle a pris quand même 2 semaines d'arrêt après ta réflexion. Enfin bon. Je plaisante. Oui, oui, Corinne.
Alors là, moi du coup, je me permets une petite expérience personnelle. Donc, mes enfants ont 18 et 21 ans. Donc ma fille a 18 ans. Le collège, c'est pas si ancien que ça. Et donc dans la commune où se trouvait le collège, j'ai quand même vécu, mais même c'était déjà vrai à l'époque de mon fils qui est plus grand, l'interdiction du port du short au collège. Donc systématiquement, alors quand on parle du short, c'est un short, hein, c'est pas un string, c'est un short avec un règlement intérieur qui parle de tenue décente. Voilà, il fallait que ce soit décent, donc bon, on peut en discuter à l'infini, et qui systématiquement, lorsqu'une fille arrivait avec un short, était mise soit à l'infirmerie, soit obligée de porter une blouse. Alors moi, ça m'a fait assez rapide. J'étais pas aussi tranquille que les deux parents qui sont là aujourd'hui, parce que moi, au bout d'un moment, ça m'a quand même fait un petit peu monter dans les tours, comme on dit pas très poliment. Parce qu'évidemment, j'ai demandé des explications. L'explication qui m'avait été donnée, c'était que ça excitait les garçons. Donc voilà, comme ça, tout le monde en a pour son compte, les parents de garçons et les parents de filles. Et que ça a été... en plus, c'est toujours difficile de discuter avec une autorité quand on est un parent d'élève classique. Donc j'ai un peu essayé de regrouper autour de moi des parents sensibilisés à ça. Vis-à-vis de ma fille qui était au milieu de tout ça, c'était pas forcément facile. Parce qu'au bout d'un moment, elle s'en fichait de porter un short ou pas, si ça faisait tant d'histoires avec maman. Bon, et puis après, elle voulait porter le short à tout prix. Je pense que les choses ont bien changé aujourd'hui, mais c'est pas si vieux. Elle a aujourd'hui 18 ans. Mmh. Mais voilà, on peut parfois, en tant que parents, se retrouver face à une telle assignation et avec tout ce qu'il y a derrière, hein, sur ce que pensent les garçons, la fille qui est forcément, du coup, jusqu'où ça va, forcément responsable, ouais, s'il lui arrive quelque chose parce qu'elle aura porté un short. On parle de ça, il fait 40 degrés. Moi, j'avais mon cabinet sur le camp Jean Jaurès, je voyais toutes les femmes de mon âge en short, donc je voyais pas pourquoi une gamine de 15 ans pourrait pas l'être. Enfin voilà, donc c'était parfois, c'est quand même compliqué de rester serein, mais c'est vrai qu'il faut toujours en discuter et puis peut-être changer d'interlocuteur quand on sent que ça bloque trop, qu'on ne peut plus progresser.
Merci pour votre action, Corinne. Tu veux qu'on...
Oui, alors moi, juste pour conclure sur tous ces échanges.
Hey, pas mal. Troisième essai, c'était le bon, sinon c'était éliminé. Hein.
Je vous conseille un podcast donc, de Camille Regache qui s'appelle Camille. Et elle a consacré 2 épisodes au lien entre parentalité et féminisme. Donc ça s'appelle parentalité queer. C'est super intéressant parce qu'elle échange avec une personne qui est sociologue, je crois. Et elle fait vraiment le point sur tout ça. C'est vraiment passionnant. Je l'ai réécouté encore en venant en voiture avant, tellement je trouve à chaque fois il y a des nouvelles choses qui arrivent. C'est très clair. Et puis, on va se quitter avec Marine, qui, je pense, va très bien, tout à fait conclure nos échanges.
Concernant l'équité des sexes, si on commence à avoir ces filtres-là, en lisant, en échangeant autour de ça, on peut rapidement aller dans une fermeture dans l'autre sens. C'est-à-dire, non, absolument, ma fille est une... Je ne t'offrirai pas de poupée princesse et tu n'auras pas de robe, ni de paillettes, ni de licorne parce qu'il faut rester ouvert et tout ça. Mais du coup, d'être dans un diktat à l'opposé, moi, je trouve que ça peut être en tout cas un défi de rester dans l'ouverture à la diversité, à l'écoute des envies des enfants. Et comme disait Erika aussi, effectivement, de discuter, d'échanger autour des différents modèles qui sont proposés, des choses qui touchent, pourquoi ça nous touche, qu'est-ce que ça nous fait, qu'est-ce qui nous fait envie. Et d'amener aussi les enfants à petit à petit avoir conscience de pourquoi ça leur plaît.
Voilà, donc ça c'était Marine. Merci beaucoup à tous d'avoir été là, c'était super chouette de vous avoir autour de la table et puis d'échanger sur ce sujet. Comme d'habitude, on pourrait faire un volet 1, volet 2, volet 3 sur ça. Il y aura une émission qu'on consacrera plus spécifiquement à comment le genre des parents influe l'éducation et la parentalité. Ça, c'est l'autre pendant en fait de cette réflexion là. Merci Delphine, merci Rémi, merci Corinne, merci Noémie. Merci et vous qui nous écoutez, si cette émission vous a plu, si elle a répondu à vos questions, si elle en a soulevé des nouvelles, partagez-la autour de vous. Et si vous voulez compléter les témoignages, contactez-nous. J'ai parlé à ta place, Greg.
Tout à fait. Alors du coup, j'ai pas envie de parler à la tienne. Alors tu continues.
Si vous êtes intéressé pour faire jouer le spectacle La beauté des sexes sur l'agglo, contactez les productions SEM. Et puis vous pouvez retrouver l'actualité et les dates de représentation sur Facebook. Et on vous mettra bien sûr l'adresse mail en lien. Et puis il y a un teaser aussi. Et surtout, il y a un Padlet qui est bourré de ressources qu'on mettra. Donc un Padlet, c'est un truc en ligne où il y a plein de ressources, donc des podcasts, des vidéos, des articles, des livres. Donc on le mettra dans le descriptif du podcast. Et on pourra aussi réentendre Erika dans une autre interview que j'ai fait avec elle, parce qu'elle est l'invitée de la deuxième conversation parents live. Les conversations parents live, c'est des échanges drôles, décalés, avec des personnes qui sont engagées sur la parentalité. La première, c'était en août, c'était avec William Messonnier, qui est comédien et acteur dans le spectacle Père Indigne. Et puis la deuxième, donc, ce sera avec Erika Leclerc-Marceau.
Très bien. Et puis, si vous souhaitez monter des projets, être accompagné ou intégrer les réseaux qui participent à l'égalité femmes-hommes et à la lutte contre les stéréotypes de genre, vous consultez la médiathèque. N'hésitez pas à contacter la Maison de l'égalité femmes-hommes à Échirolles. Et puis, que vous soyez parent ou professionnel, vous pouvez participer aux formations et ateliers proposés par Noémie via Grandir Ego, E-G-A-U-X, ok les copains. Retrouvez toutes les infos et contacts sur son site grandirego.fr.
Ouais, et puis on transmettra les dates sur notre Facebook et sur notre Insta dès qu'on les aura. Yeah. Pour finir, on n'en a pas parlé, mais il y a une personne qui s'appelle Marine Wagon, qui est illustratrice et qui a créé un abécédaire des femmes inspirantes qu'on peut retrouver sur Instagram. Et ça peut faire un joli cadeau à offrir pour un garçon ou une fille. Donc c'est un abécédaire avec des illustrations de femmes inspirantes. Et puis on peut aussi... au moment de l'initial de son enfant, mettre le visage de son enfant. Voilà.
Donc ça, c'est un moderne.
Ouais. Wow. Non, mais c'est elle qui le crée. Hein.
Ah bon. Voilà. Non.
Bref, donc c'est un abécédaire, c'est un cadeau pour une chambre d'enfant. C'est des femmes inspirantes, donc on adhère. Et toutes les ressources qui sont citées sont dans le descriptif de l'épisode. Ce sera mis en ligne aussi sur l'onglet kit de survie du site parentlife.fr. Et puis l'émission à la réécouter sur toutes les plateformes d'écoute, Deezer, Spotify, YouTube et Google Podcast.
Des nouvelles de l'exposition?
Oui. Oui, la place des pères. On peut la visiter en ce moment au Café des Enfants, qui est 9 rue des Champs-Élysées, quartier des Eaux-Claires. C'est jusqu'au 31 octobre et on vous invite au vernissage, un vrai vernissage avec des petits fours, promis. Mardi prochain, le 14 septembre, entre 15h et 22h, avec donc version goûter, apéro ou après avoir couché les enfants. Donc vraiment aucune excuse hein, pour pas vous pointer. Et puis après, elle sera aux Abrets en Dauphiné à partir du 1er octobre et jusqu'à fin novembre. Et ensuite, elle va poursuivre sa route dans l'agglo.
Le 22 septembre, de 15h à 18h, ouais, à la Ludothèque de la Cité des Familles, on vous propose de découvrir les portraits de famille intitulés « Les super-pouvoirs des papas », réalisés lors du temps fort de la quinzaine de la parentalité en juin. Ce sera aussi l'occasion de tester ensemble le jeu « Action ou vérité » par en live. Une édition spéciale, oui. On sent.
Tu ne suis pas sur Instagram, toi.
Hein, non, moi j'ai arrêté de suivre les gens sur Instagram.
Donc on te courra après, alors, sympa.
Ouais, c'est ça, mais je vais prévenir la police. Donc ce sera découvrir le jeu Action Vérité par en live et l'occasion aussi de faire des petites interviews ludiques par enfant sur la rentrée. C'est ouvert à tous, donc venez faire un tour.
Donc c'est le mercredi 22 septembre à la ludothèque de la Cité des Familles, entre 15h et 18h, c'est sans inscription et sans passe sanitaire. Mmh. Voilà. Et puis moi j'en profite pour faire une petite dédicace, un petit carnet rose de parents live, parce qu'il y a deux petites filles de la team qui sont nées cet été en août, donc Inès et Charlie, bienvenue. C'est Myriam, notre community manager, et Rémi, notre webmaster, qui sont parents pour la deuxième fois, donc on leur fait un petit coucou. Et Bravo. Puis, on se retrouve le 10, c'est ça hein
C'est ça, 10 novembre. Le 10 novembre, exactement, pour une émission consacrée à l'épuisement parental, préparée en lien, Flo, tu m'arrêtes si je me trompe, avec l'Observatoire de la parentalité et du soutien à la parentalité et des parents participant à la recherche. Être parent, ça fatigue. J'essayais de mettre un petit ton, vu qu'il y avait des guillemets.
Non, mais c'est ça. Donc voilà, c'est une recherche qui est menée en ce moment sur toute la France, et on va interroger ses parents et faire un point sur ce que c'est le burn-out parental ou l'épuisement parental. Mm-hmm. Voilà.
Trop bien. D'ici là.
Eh bien, d'ici là.
D'ici là, on va se reposer.
Ouais, d'ici là, on va se reposer. Ouais,
épuisement parental, on va prendre un peu d'avance Allez. Sur cette émission.
Non, mais je pense que ouais, la fin des vacances compilée avec début de rentrée, là, on est vraiment au max de notre énergie. Bon, d'ici là, donc, portez-vous bien, soignez votre tendinite, parce que vous avez signé à peu près 15 000 papiers pour les activités de vos enfants. Lâchez prise face aux deux gourdes et trois bonnets, non, pas trois bonnets, trois casquettes qui ont déjà été égarées. Et puis, restez zen devant vos autres mômes qui vous dit c'est quand les vacances.
Aïe, 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 aïe. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup, Flo. On se retrouve donc, Merci. Du coup, le 10 novembre. Passez une excellente journée sur News ou ailleurs. Excellente journée à nos invités aussi. Merci encore pour cette participation. Allez, ciao, ciao tout le monde.